Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau conseil de famille, un conseil de famille aujourd'hui consacré aux addictions. Alors quand on tape addiction sur n'importe quel moteur de recherche, on trouve ceci. C'est un anglicisme qui signifie dépendance très forte, entre parenthèses à une substance nocive, entraînant une conduite compulsive. Aujourd'hui, on ne réduit plus le terme d'addiction à une consommation d'un produit toxique qui entraîne un usage compulsif, comme les drogues, l'alcool ou encore le tabac. Mais on parle d'addiction, par exemple, aux jeux sur Internet, aux jeux sur les consoles, les jeux en ligne. On parle aussi d'addiction au sport, au sexe et même au travail. Et oui, mesdames. Alors pour en parler aujourd'hui, Maude Fréchoux, psychologue pour l'école des parents et des éducateurs. Bonjour Maude.
Bonjour.
Bienvenue en studio.
Merci.
On retrouve bien sûr Anne-Marie Stams, coordinatrice du programme de réussite éducative à l'ODEV.
Bonjour.
Et puis Anne Martinez à la technique aujourd'hui pour cette émission, ce conseil de famille. Alors, quel est votre rapport, mesdames, aux addictions? Comment savoir si l'on est addict? Quand consulter? Comment se faire aider? Et puis tout d'abord, première question, quelle est votre définition de l'addiction? Vous avez 2 heures, merci.
Vaste question.
Oui. Est-ce une question d'une consommation abusive, de quelque chose qui devient incontrôlable, donc avec la compulsion, qui prend trop de place, qui devient seul finalement objet de la journée, hein, quelque chose qu'il faut absolument satisfaire, un besoin trop
important.
Trop important, ouais.
Moi, j'ai dit qu'il y a cette notion de perte de la réalité aussi, de la relation au monde. C'est-à-dire que c'est des gens qui... le fait d'être addict modifie sa perception de la réalité. Et ça, je pense que c'est quelque chose... Alors, on le voit peut-être pas tout de suite, mais des personnes qui peuvent se couper du monde, couper des autres, où finalement, ce qui compte, c'est son rapport à soi et plus le rapport à l'autre. Voilà, l'addiction, moi, je la vois un peu comme ça aussi.
Alors, le rapport à soi, mais à travers
à travers un produit.
Oui.
C'est-à-dire que la notion de plaisir ne passe que à travers le produit. On n'arrive plus à prendre plaisir autrement que par une voie, en tout cas chimique ou pas, parce que tu disais, l'addiction, par exemple, aux jeux vidéo, il n'y a rien de chimique là-dedans. Mais ce sont des personnes qui, pour pouvoir déclencher le plaisir, doivent passer par quelque chose qui est de l'ordre de produit, du jeu vidéo. Et ça modifie quand même sa perception du monde, quoi.
Alors, on va écouter tout de suite quelques personnes qui ont bien voulu répondre à cette question. Quel est leur rapport à l'addiction?
Je dirais quand même que l'addiction, c'est un truc qui fait peur. Enfin, pour moi, c'est un truc qui me fait peur. Pas forcément par rapport à moi, parce que je fais attention, je pense. Et après, que oui, globalement, par rapport à d'autres, par rapport à ce qu'on peut voir, c'est un truc qui est un peu flippant. Après, moi, je pense que j'ai la chance de pas avoir trop d'addictions qui ont des côtés négatifs, à part un peu, bien sûr, la clope. Et la mauvaise bouffe pour la santé. Après, pas un truc, heureusement que j'ai trop dans mon entourage. Donc, pas trop de gens qui foirent des vies à cause d'une addiction. Donc, c'est déjà la bonne limite, je me dirais.
Quel est votre rapport aux addictions?
Ben, moi, j'en ai 3. Il y a le café. Je suis caféinomane. Il y a l'alcool, un petit peu. Mais c'est une addiction quand même, même si je bois que de la bière et peu, parce qu'à la 5e, je suis déjà ivre et ça me suffit, j'arrête, mais c'est quand même un peu presque tous les jours. Et la cigarette, évidemment, là, c'est une véritable addiction. Mon rapport à ça, ça me casse bien les couilles. Ça me casse bien les couilles. J'y pense régulièrement. Là, récemment, par exemple, j'étais en train de me dire que j'allais essayer de boire du maté. Parce que moi, il me faut du café toute la journée, tout au long de la journée, sinon mon cerveau il s'éteint, je me fatigue, je deviens moins performant, etc. Et donc j'ai réfléchi à me dire que peut-être que le maté pourrait être intéressant. Voilà. Donc tu vois, j'y pense et je me dis que par conséquent, peut-être que ça pourrait m'aider à réussir une nouvelle tentative d'arrêter de la cigarette, parce que pour moi, café et cigarette sont associés. Et l'alcool, je crois que là, je fais pas trop attention, parce que je me dis que de toute façon, vu mon état, vu l'état de mon système gastrique précisément, très très bientôt, si je vais devoir arrêter de manière très brute.
Quel est votre rapport aux addictions?
C'est
occasionnelle, heureusement. Mais ça reste une addiction. La petite bière du soir, la cigarette, ou la cigarette améliorée. Voilà. On a du mal à s'en passer, à se dire non, ce soir, non. Puis en fait, ça vient quand même, quoi. Et heureusement, pour contrebalancer tout ça, il y a le sport. Ça permet de décharger, effectivement, tout ce qu'on a emmagasiné dans la journée ou dans les deux jours qui sont passés, quoi. Et c'est pareil, c'est plutôt le soir. Marcher, faire du vélo, faire un petit peu de musculation, on va dire, voilà.
Et comment on sait qu'on est addict au sport ?
Quand on sent qu'on a besoin et que le corps a besoin. Donc du coup, c'est plus fort que l'esprit.
Voilà, alors sur ce dernier témoignage, on note que ce monsieur qui démarre en disant « j'ai pas d'addiction », finit par dire que finalement, il est addict au sport, qu'il ne peut pas s'en passer. Hein, vous connaissez cette addiction, vous ?
C'est pas celle qu'on rencontre le plus souvent, hein, on va dire ça comme ça, mais tout à fait, ça peut être une addiction. Le sport déclenche évidemment un tas de neurotransmetteurs, de molécules, d'hormones, etc., qui font effet. Hein,
C'est la même neurotransmetteur que la drogue, c'est-à-dire c'est l'adrénaline.
Ou la dopamine.
Ou la dopamine, c'est
les deux neurotransmetteurs clés dans le circuit de l'addiction.
Et oui, voilà. Du plaisir.
Et du plaisir.
Le circuit de la boucle de récompense qui est très important dans les addictions, toute addiction confondue, et qui est d'ailleurs, en dehors des effets physiques de sevrage, est le plus lent à faire partir, parce qu'elle perdure dans le cerveau pendant des années, cette boucle de récompense.
Voilà, c'est-à-dire qu'on dit souvent que chez les personnes addictes, je vais employer un gros mot, hein, je vais dire droguées, on est à la recherche de ce qui s'est passé la première fois quand on a pris cette drogue. Et voilà, on recommence en espérant toujours retrouver ce premier flash, ce premier plaisir.
Cet objet perdu un peu.
Oui. Ça te parle, Maud, de l'objet perdu en tant que psychologue.
Non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a, comme tout phénomène de boucle de plaisir, il y a ce phénomène qu'on appelle d'habituation. C'est-à-dire que le corps s'habitue, en fait, à la substance et il en faut toujours un peu plus. Et c'est ça qui est dangereux dans le phénomène de l'addiction. C'est que pour retrouver un semblant de plaisir initial, il faut toujours aller plus loin. Donc, on peut effectivement. Alors après, je pense que on n'est pas, et ça, c'est malheureusement, c'est comme ça, on n'est pas tous égaux face aux produits. Il y a des personnes qui vont jamais rentrer dans une addiction, notamment je parle le cannabis, parce que c'est le plus fréquent, en tout cas qu'on retrouve nous, parce que la seule fois où ils ont fumé, ils étaient dans un état tellement, ils étaient tellement malades que plus jamais ils recommenceront.
Ah oui, ils sont vaccinés.
Voilà, et pareil pour l'alcool. Il y a des gens qui ne supportent pas l'alcool et du coup ça les vaccine un peu. Et puis il y a des gens qui effectivement ont une capacité à supporter de manière élevée la substance et du coup voilà on n'a pas du tout les mêmes capacités réactions face aux produits. Pareil pour les jeux vidéo, il y a des gens qui vont être addicts aux jeux vidéo et puis il y a des adolescents qui vont jamais y aller.
Mais aussi dans la durée, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont utiliser une ou deux fois un produit, vont être addicts assez rapidement,
tout à fait,
et d'autres qui vont consommer de façon régulière sur un temps et pouvoir arrêter
sans aucun problème.
Donc on est vraiment pas égaux. Hein,
voilà, on dit que c'est la rencontre entre une personne, un produit,
tout à fait,
à un moment donné.
Tout à fait, tout à fait.
Alors à un moment donné, ça veut aussi dire qu'on peut avoir des périodes dans la
fragilité.
Vie de fragilité où on est plus encline à consommer. Voilà, à arriver jusqu'à se perdre dans un produit, une activité particulière. Qui va devenir avec un usage excessif, quoi.
Tout à fait.
Alors moi, dans ma profession d'éducatrice spécialisée, je rencontre beaucoup de jeunes qui disent aussi consommer pour faire comme tout le monde, pour faire comme les autres.
La pression du groupe, faire partie du groupe, la peur d'être rejeté. Oui, je pense que ça arrive encore malheureusement.
Et ça commence souvent comme ça.
Et ça commence souvent comme ça, et ça montre la fragilité un petit peu de l'estime de soi, de l'affirmation de soi aussi. Hein. Il en faut une belle petite dose pour pouvoir dire non à la pression du groupe. Hein. Donc oui, effectivement, on constate encore bien souvent malheureusement.
Et puis encore une fois, il y en a, on est très peu égaux par rapport à ça. Il y a des jeunes, ils vont goûter, par exemple, fumer un joint et puis ils vont s'arrêter là. Et puis il y en a un autre, il va faire la même chose, mais ça correspond effectivement à un moment donné dans sa construction, dans sa vie, dans son existence, ça va venir percuter quelque chose qui fait que ça va prendre une proportion très importante, alors que son copain à côté, lui, il a une consommation tout à fait modérée du produit. Donc on est vraiment très très inégaux par rapport à ça, et tant qu'on n'a pas essayé, on le sait pas, en fait. C'est-à-dire que moi, je connais des gens, ils m'ont dit, mais voilà, moi j'ai essayé, ça me convient pas, c'est pas mon truc. On entend ça, hein. Voilà, moi je prends mon exemple très personnel. J'ai fumé pendant des années, j'ai fumé très jeune avec la pression du groupe. C'est vraiment comme ça que j'ai démarré. Oui. J'avais 13-14 ans, j'étais au collège. On m'a dit, tu veux... Et c'est vrai que pour être avec les grands, de troisième, ça faisait bien de fumer. Donc voilà. Sauf que moi, j'ai été très vite addict à la cigarette. J'ai mis beaucoup de temps à m'en débarrasser. Ça fait 5 ans maintenant que je ne fume plus. Mais je me considère droguée. Ce qui a permis que je m'arrête... Et ce qui me permet de continuer à pas fumer, c'est que je suis tout à fait consciente que je reste dépendante de ce produit. Je reprends une fois une cigarette, c'est foutu. Je sais que je repars, comme il y a 5 ans, avec un paquet et demi par jour. J'en suis convaincue. Et c'est ça qui m'aide à surtout pas, même pas prendre une cigarette et tirer dessus une fois. Ça m'est interdit. Et je crois que tous les gens qui ont été dans l'addiction le disent, c'est quand ils arrêtent, c'est plus jamais. On peut pas se permettre, finalement. On peut plus s'exposer aux produits. C'est terminé. Parce que j'ai cette propension à être attirée par ce produit. Voilà. Je le sais. Mais ça a été un chemin de plusieurs années avant de comprendre ce système-là et arriver à le déconstruire. C'est vraiment une déconstruction mentale qui est très compliquée, qui est très lente.
Voilà. Alors, on verra après comment on peut essayer de sortir de ces addictions. Anne-Marie, tu voulais réagir? Peut-être par rapport à ce que disait dans ce micro-trottoir le monsieur qui parlait de ses addictions, par exemple l'addiction au café, ça vous a fait sourire, les filles. Sachez que vous avez en face de vous une caféinomane.
Oui, caféinomane. Oui, effectivement, c'est une addiction, le thé, le café. Enfin, voilà. Et évidemment, un effet sur le cerveau. Ce qui m'a fait plus sourire, c'est que... ce qui venait plutôt après, en plus, il disait que son cerveau allait être ramolli par le fait qu'il buvait trop de café.
Non, s'il ne boit pas de café toute la journée.
Ah, d'accord. Donc
son cerveau est ramolli.
Voilà. Son cerveau se ramollit.
D'accord. Oui. Effectivement. Après, je pense que c'est pas la pire des addictions entre guillemets pour arrêter, quoi. Voilà.
Après, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il l'associait avec la cigarette, le tabac et le café. Et on sait que par exemple, pour arrêter le tabac, très souvent, il faut arrêter d'autres choses avec, parce que quand on va voir un tabacologue, c'est bien comme ça qu'on dit, pour arrêter, il va vous dire à quel moment vous fumez, à quel moment de la journée vous en avez envie, quand est-ce que vous prenez des cigarettes. Il faut tout déconstruire. Tu parlais de déconstruction.
Il faut tout revoir
et tout déconstruire, y compris ses consommations à côté, etc.
Tout à fait. Oui, parce que moi qui ai été suivi, après on reparlera de suivi, mais ce qu'il faut arriver à comprendre c'est justement son comportement face au produit. C'est-à-dire à quel moment j'en ai besoin, à quel moment ça vient, parce que le cerveau, on l'a dit tout à l'heure, c'est une boucle de plaisir qui s'anime dans le cerveau. Et en fait, cette boucle, elle rend automatisé le comportement. C'est-à-dire qu'on n'a plus conscience de ce qu'on... Moi, quand je fumais, je prenais pas conscience que j'étais en train de fumer. C'est-à-dire que je les prenais de manière automatique, mes cigarettes. Et elles étaient raccrochées à des étapes dans la journée. Je rentrais dans la voiture, j'allumais une cigarette. J'arrivais sur l'autoroute, je rallumais une cigarette. J'arrivais au boulot, j'ai rallumé une cigarette. Vous voyez, c'était vraiment séquencé. Et c'est ça qui est, et on automatise, en fait. Voilà. On n'a plus, on se rend même plus compte.
C'est le réflexe.
C'est un réflexe. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'addictions. De beaucoup d'addictions, en fait, on automatise le comportement. Comme quand on conduit, on automatise le fait de conduire. Mais quand on est addict, on se lève le matin. Moi, je me levais le matin. La première chose à laquelle je pensais, c'était ma cigarette. C'était la première chose que je faisais en me levant. Donc voilà, c'est peu importe les conséquences que ça avait sur mon organisme, parce qu'on sait qu'en plus fumer le matin à jeun, c'est juste c'est pas bon du tout. Mais c'était mon idée du matin. Voilà, c'était ça qui arrivait en premier dans mon cerveau, fumer. Donc oui,
effectivement, il y a cette question des rituels, des automatismes, et des émotions aussi. C'est-à-dire une émotion forte, hop, j'arrive pas à gérer, je vais faire quelque chose pour voilà le stress, etc. Enfin, qui sont plus forcément conscients non plus qu'on donne cette réponse-là en permanence à l'émotion, à un stress, à un événement. Enfin voilà. Donc là aussi.
Moi, pour résumer, j'ai envie de dire que pour moi, le fait d'être addict, c'est qu'on a l'impression, on est convaincu qu'on ne peut plus fonctionner correctement sans ça. Voilà, qu'on est incapable d'avoir un quotidien, d'avoir une vie, d'avoir une journée normale si on passe pas par l'addiction. Voilà, c'est là où il y a une espèce de bascule. C'est pour ça que moi, les personnes qui disent être addictes en étant dans des consommations occasionnelles, c'est encore un peu différent. Voilà, c'est encore quelqu'un qui va fumer le week-end avec des amis, c'est pas la même chose que quelqu'un qui fume tous les jours dès le matin au réveil. On n'est pas dans les mêmes configurations quand même.
Bah pareil pour l'alcool, hein. Quelqu'un qui boit un verre de temps en temps avec ses amis en faisant l'apéro, c'est pas la même chose que
quelqu'un qui va boire
tous les soirs, tout seul, la bouteille de whisky.
Bien sûr. Ou voire même trois verres de vin. Oui. Enfin, maintenant, on sait que ça va. C'est quelqu'un qui quotidiennement. L'alcool mondain, ce qu'on appelle l'alcool mondain, c'est qualifié comme de l'addiction. Et ça, c'est encore quelque chose qui est très tabou, je trouve.
Oui.
Encore.
Oui. C'est pas rentré
dans un pays qui est très relié à l'alcool.
Oui, et au vin, bien sûr. On écoute tout de suite Serge Gainsbourg, on se demande bien pourquoi.
Dragon qui se prend. Wow. Zéro.
Alors, on sait que l'homme a toujours, depuis la nuit des temps, consommé des substances particulières qui ont des effets sur le cerveau. On a retrouvé des résidus de substances psychotropes dans les dents d'hommes préhistoriques. Voilà. Donc, on ne savait pas si c'était qu'ils les utilisaient pour se soigner, pour se soulager de certains maux ou pour partir dans des transes chamaniques ou je ne sais quoi. En tous les cas, oui, on sait que ça existait. Ils avaient trouvé les plantes en question. Et justement, en parlant de plantes, c'est l'opium qui semble être la première substance à avoir été découverte il y a 8000 ans. Alors, pour revenir à une époque plus contemporaine, en France, la drogue est arrivée, on va dire, dans les années à peu près 60-70, avec les fameux hippies, beatniks, qui sont partis en Asie à la recherche des fameux paradis artificiels. Et cette consommation est devenue petit à petit un problème de santé publique. Longtemps, les drogues ont été classées en deux parties, une partie drogue dure, une partie drogue douce. Aujourd'hui, on revient totalement sur ces définitions. Les drogues dures, c'était principalement l'héroïne, la cocaïne, on va rajouter le crack depuis quelques années. Et puis les drogues douces, on va dire, c'était principalement le cannabis, considéré comme moins dangereux. Il y a les drogues licites et les drogues illicites aussi. Les drogues licites, bien sûr, le tabac, l'alcool en France, etc. Voilà, une distinction qui est apparue avant tout pour légiférer sur le plan pénal. Le vendeur, le dealer ou encore le consommateur, à partir de là, s'il vendait des drogues dures ou s'il consommait des drogues douces, on savait à quoi il s'attendait s'il se faisait arrêter et juger. Donc aujourd'hui, on sait que cette distinction est dépassée. En effet, on peut consommer une drogue dure occasionnellement et une drogue douce de manière dure, par exemple tous les jours, de manière excessive. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Ainsi, ce qui apparaît, c'est plutôt l'utilisation que l'on a du produit qui en fait sa dangerosité. C'est donc son rapport à ce produit et donc son addiction. Alors, dans ma pratique, je le disais tout à l'heure, d'éducatrice auprès d'adolescents qui sont à peu près âgés entre 11 et 21 ans, j'ai appris l'existence de nouvelles drogues. On n'en parle pas assez. Par exemple, la MDMA.
C'est ces petites capsules, là?
C'est plutôt sous forme de comprimés et de comprimés colorés, genre avec des petits smileys dessus qui les rendent très attractifs.
Ça ressemble à de l'Extra.
Voilà.
D'accord.
Voilà.
Ça peut être liquide aussi, ça peut être en poudre, ça peut se boire.
D'accord. Voilà. C'est une drogue chimique donc et qui induit des sensations particulières qui donnent envie d'être dans une empathie. On l'appelle la drogue de l'amour, de toucher les autres, d'être love complètement. C'est comme ça qu'ils me le décrivent. Alors ça paraît super, mais en même temps, il ne faut pas rappeler que ça reste un produit extrêmement toxique. Et tu le disais tout à l'heure, Maud, on n'est pas tous égaux devant la toxicité des produits. Ça reste un produit dangereux. Il y a le fameux protoxyde d'azote.
Ah, oui, c'est ça, les petites cartouches.
Voilà, c'est ça, les fameuses petites cartouches. Est-ce que ça vous parle,
oui,
vous qui voyez des jeunes?
Ah oui, oui, il y a une consommation. Alors après... Moi, là où je suis un peu en colère, c'est que il nous manque vraiment justement au niveau législatif quelque chose pour un peu travailler ça, parce que c'est en vente libre ces petites capsules là, et je sais que le gouvernement est un peu en retard et un peu lent pour essayer de protéger les adolescents face à ces achats qu'on peut aller, on va dans un magasin qui vend des
en épicerie,
en pâtisserie, en ce que tu veux, tu trouves c'est en vente libre, et c'est ça qui est vraiment dommage.
Oui, alors je crois il y a des maires qui ont devancé et qui n'ont pas attendu que l'État légifère et qui ont arrêté la vente de ces petites capsules dans leur magasin. Ceci dit, les jeunes consomment, enfin en tous les cas, se procurent ces fameuses capsules par Internet.
Ah ben oui.
Et quoi qu'il en soit, mais ça soit aussi pour, entre guillemets, toutes les autres drogues qui sont interdites, sont quand même, enfin, ils se les procurent, quoi. Et ils y arrivent très bien quand ils veulent. Donc, parfois, la loi suffit pas non plus. Et qu'il faudra penser quand même aussi beaucoup à la prévention. Et la connaissance de ce que peut faire une chose ou une autre.
Voilà.
Je pense que toi, tu peux en parler d'ailleurs, des enfants qui pensent que le cannabis est légal ou que...
Ah oui, oui, oui.
Voilà,
ah oui,
on rencontre.
Voilà, tu veux parler donc de mon expérience d'intervenante avec l'association Addiction France, qui était anciennement l'AMPA. On intervenait sur, et on intervient toujours sur des collèges, notamment le collège de l'ODEV, où il y a encore des jeunes qui s'étonnent de savoir que le cannabis n'est pas légal. Donc on imagine que c'est des jeunes qui sont en cinquième, donc qui ont 12-13 ans. Et donc on imagine qu'autour d'eux, ça consomme de manière très ouverte, très libre, et au point que ces jeunes ne savent pas que c'est interdit. Voilà. Juste pour revenir au produit, par exemple le fameux protoxyde d'azote, qu'on a malheureusement appelé aussi la drogue euphorisante ou la drogue du rire.
Oui, la drogue du rire.
Voilà. En imaginant, ou le gaz hilarant, voilà. En imaginant que voilà, qu'on allait le consommer, que ça allait être très drôle, etc., etc. Bon, voilà. Il faut aussi parler de là aussi d'une certaine toxicité parce que ça cause des dommages au cerveau qui sont assez irréparables. Et donc plutôt, faut être plutôt sur de la prévention des risques et voilà. Et savoir quels sont les côtés nocifs de toutes ces drogues qui peuvent être consommées. Alors, vous recevez, vous, des jeunes qui viennent vous voir exclusivement pour ça, des familles qui sont empêtrées avec ça, par exemple, Anne-Maric ?
Exclusivement, c'est très rare pour nous au programme de réussite éducative.
Vous découvrez peut-être cette problématique ?
On découvre par moment avec les parents aussi, qui fait que voilà, il y a d'autres problématiques d'abord qui sont plus visibles, et ensuite voilà, en grattant, en travaillant avec les jeunes, la famille, on se rend compte qu'il y a une addiction, mais c'est plutôt rare. Après, il y a souvent des soupçons. Par moment, voilà.
Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'on peut
conseiller ? Et où les jeunes ne verbalisent pas forcément, parce que dire, ça veut dire aussi que c'est vraiment vrai, que ça existe. Donc ça prend du temps de prendre conscience que c'est un problème, que voilà. Parce que souvent, c'est, pour eux, c'est pas un problème d'ailleurs. Ils n'ont pas de problème avec ça. Aucun souci, donc ça prend du temps, mais... c'est pas la majorité des accompagnements qu'on peut avoir.
Moi, je dirais que j'ai une expérience il y a quelques années qui m'a beaucoup marquée sur Gignac, quand j'étais sur le point écoute accueil jeune de Gignac. Et tous les mois, j'accompagnais un groupe de jeunes sur des soirées qu'on appelait les soirées tchatch. Tchatch pour dire on est là, on échange, on discute. Et c'était des jeunes entre 15 et 17 ans, quasiment que des garçons. Et je sais pas comment c'est venu, mais c'est venu effectivement. On a parlé de la thématique des drogues parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les jeunes. Et ces jeunes ont pu exprimer leur expérience autour de l'addiction. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué parce que il y avait un jeune en particulier qui s'était exprimé au groupe en disant j'ai fait une expérience d'une drogue et je l'ai très mal vécu. J'ai cru que j'allais mourir. J'étais hyper angoissée.
Ce qu'on appelle les bad trips.
Voilà, les bad trips qu'on peut avoir avec du cannabis d'ailleurs.
Absolument.
Et ça m'a beaucoup touchée. Et ce que j'ai pu répondre à ce jeune, alors en me disant, j'espère que voilà, comment ça va être pris, parce que c'est compliqué dans la prévention et la parole de l'adulte. Là, j'ai senti que j'avais une charge, qu'il fallait que je réponde correctement, qu'il n'y avait pas. Je m'étais dit ne pas dire que c'est interdit parce que ça ne sert à rien. C'est pas ça dont le jeune a besoin d'entendre. Moi, ce que j'avais conseillé à ces jeunes, ce que je conseille toujours quand je rencontre des jeunes un peu fragiles comme ça ou qui se questionnent sur leur consommation, c'est de pas être seul.
Oui, absolument.
Moi, je leur dis ça. Je dis voilà, tu peux faire des expériences, il n'y a pas de souci, mais surtout, ne sois pas seul et sois avec des gens avec qui t'es en confiance. C'est essentiel. Et si jamais tu expérimentes, ne le fais pas dans la pression, parce que tu vas t'angoisser, et l'angoisse, ça va générer un bad trip. Enfin, moi, je raccourcis un peu, mais j'essaie d'expliquer que, voilà, on peut faire des expériences autour de drogue, y prendre du plaisir, dans un contexte bienveillant, dans un climat bienveillant. Voilà, j'essaie d'apporter ça. Le jour où j'ai dit ça à ces jeunes, je me suis dit, je voudrais pas que les parents me tombent dessus, parce que je sais pas comment ils vont le prendre, mais je me suis dit, là, j'ai un rôle à jouer en tant qu'adulte, voilà, de dire voilà, ne sois pas seul, essaye de d'être avec quelqu'un, quoi. Voilà.
Merci Maud pour ce conseil. On va se quitter. C'est vrai que c'est un vaste débat, le débat des addictions. On vous donne rendez-vous pour un prochain conseil de famille. Merci beaucoup Maud.
Merci à toi.
Maud Fréchoux, donc psychologue pour l'association L'école des parents et des éducateurs. Et puis merci à Anne-Marie Stams, coordinatrice pour le programme de réussite éducative sur les voies.
Merci Laurent Sarsac pour la Maison des Adolescents.
Merci à vous. Merci. Anne qui était à la réalisation de cette émission. L'émission donc qui sera diffusée vendredi à 17h et rediffusée demain samedi à 13h. Au revoir à tous.